Bon, donc déjà merci beaucoup, merci à tous d'être venus. Donc le but de cette journée, c'est vraiment de créer un échange, de pouvoir discuter un petit peu entre entrepreneurs, DDT, parcs, voilà, pour essayer de discuter ensemble sur la thématique des franchissements de cours d'eau et de l'intervention en zone humide. Donc merci également, donc je remercie également la société forestière qui nous accueille sur leur terrain, sur leur parcelle, donc la société forestière de la Caisse des dépôts qui est gestionnaire du massif de Rochefort, qui ici, donc il y a trois massifs différents qui cumulent une surface de 900 hectares autour d'ici. On va peut-être commencer donc rapidement par se présenter, donc moi-même qui suis chargé de mission à l'association des entrepreneurs de travaux forestiers. Donc cette association créée sur l'Aquitaine suite à la tempête Klaus pour justement accompagner les entrepreneurs forestiers, pour les aider sur tout ce qui est déclaration, sur tout ce qui est formation, pour se tenir informé également des actualités, des aides financières à l'investissement matériel qui peut éventuellement exister, de la relation avec la région. Et donc moi-même qui suis arrivé en tant que chargé de mission en 2019, donc début de cette année, pour justement relancer un petit peu la dynamique de cette association sur le secteur et accompagner tous les entrepreneurs présents. Et donc Floriane, si tu peux présenter rapidement tes missions et le parc également. Oui.
Donc Floriane Rouzon, je suis chargée de mission forêt-bois au PNR de Mille Vaches en Limousin. Donc le PNR qui est un territoire qui couvre l'ensemble du plateau de Mille Vaches, qui va des Monédières en Creuse et côté Haute-Vienne également. Et donc en fait le parc a des actions autour de la forêt et du bois qui sont inscrites dans une charte forestière de territoire. Donc moi je suis animatrice de cette charte forestière, donc c'est-à-dire qu'il y a des actions qui vont de la forêt, enfin de l'amont de la filière comme un dispositif d'aide aux travaux forestiers pour les propriétaires, des actions de formation et de sensibilisation comme aujourd'hui, à des actions plus sur l'aval de la filière, par exemple à l'accompagnement des collectivités à intégrer du bois dans leur construction publique, du bois local. Donc voilà, je suis arrivée sur le territoire récemment, donc ça me permet aussi de rencontrer les différents acteurs d'ici.
Éventuellement, est-ce qu'on peut demander également de présenter, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément la DDT, le rôle de la DDT sur le territoire ?
Oh ben, le rôle de la DDT est assez simple. L'objectif, c'est de faire appliquer les différents codes qui existent en France sur le volet, donc avec Emmanuel sur le volet sur eau et avec moi sur le volet forestier.
Un petit filet d'eau juste derrière nous, donc malgré la sécheresse actuelle qui est toujours en eau. Et donc la question justement ici de pouvoir discuter un petit peu déjà, qu'est-ce qu'un cours d'eau ?
Donc sur la définition de cours d'eau, donc ça, donc, il y a une définition qui est dans le code de l'environnement et ça repose sur trois critères. Donc pour avoir un cours d'eau, il faut déjà qu'il y ait une source à l'origine. Donc là on est dans le cas, a priori la source c'est la zone humide, hein, celle qui génère l'écoulement. Après il faut qu'il y ait un écoulement qui soit présent la majeure partie de l'année, donc c'est-à-dire qu'on va dire donc plusieurs mois dans l'année, et là le critère qui permet de savoir si cet écoulement est quasi permanent, c'est de voir s'il y a présence d'une faune benthique, hein, donc d'insectes aquatiques dans le cours d'eau. Ça, c'est un des critères qui permettent d'établir cet indice. Dernier critère, c'est qu'il y a un lit naturel à l'origine, donc c'est-à-dire qu'on est quand même à quelque chose de marqué, donc présence de berges, présence d'un lit différentiel, donc des graviers, des cailloux, qui permettent de faire la différence parfois entre, on va dire, ce qu'on appelle des rigoles en Corrèze, et vraiment ce qui là prend le caractère de cours d'eau. Donc malgré cette définition, c'est certain que c'est pas très évident de faire la différence toujours.
C'est vraiment après sur le terrain qu'on peut discuter un petit peu et faire la différence.
Donc ça s'apprécie assez souvent sur le terrain, donc quand il y a des doutes, on peut faire appel au service de la DDT et l'Agence française pour la biodiversité, qui peuvent se déplacer et puis dire clairement cours d'eau ou pas cours d'eau.
Vous avez déjà intervenu en cours d'eau ou pas du tout ?
En cours d'eau, non.
Zone humide peut-être ?
Je ne peux pas trouver les zones humides maintenant.
Et alors pour quelles raisons justement vous ne préférez pas y aller ? Pour des questions réellement techniques ou c'est plus tout ce qui est déclaration ?
Pas vraiment déclaration, mais bon, ça entraîne des problèmes derrière après.
Alors quel type de problème ?
J'ai eu ce problème là une fois dans la Creuse, pour passer dans une rigole qui est moins large que ça. déclaré comme pollution, quoi, avec de la terre.
Okay. Oui, c'est ça, effectivement, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a certes le côté... On abîme le secteur, on abîme le sol, mais il y a aussi tout ce qui est pollution dans le cours d'eau. Alors quand on parle de pollution, c'est pas uniquement tout ce qui est hydrocarbures, mais c'est tout ce qui est fine de la terre qui peuvent justement amener des éléments dans le cours d'eau, l'assombrir, donc tout ce qui est aussi faune et flore du cours d'eau qui peuvent disparaître et entraîner d'autres complications derrière.
La DDT est aussi là pour accompagner les gens. On n'est pas forcément là toujours pour reprendre certains termes, embêter ou quoi que ce soit. L'objectif premier, c'est on a une question d'ordre réglementaire. On ne sait pas comment on évolue. On pose la question. On est là pour répondre à des questions. On n'est pas là. On est vraiment là pour accompagner, au départ, accompagner les gens. Si effectivement personne ne joue le jeu, il y a tout à fait au bout, mais vraiment tout à fait à la fin, il y a la sanction. Mais c'est vraiment tout à fait à la fin. Il y a tout un panel et une progression qui peut se faire sur l'accompagnement, la pédagogie, l'aide, enfin voilà.
On va essayer de se rapprocher du chantier. Bon ben l'URL La Faille, on a le siège à Bujard. Donc moi je suis le fils, je suis chauffeur d'abatteuse et conducteur du skider. Ben, l'abatteuse elle consiste à tomber l'arbre, le débiter en billon, charpente, palette, triture.
D'accord.
Et brancher. Donc le skider il sert à câbler les arbres et les ramener au plus près de la machine pour pouvoir faire un pont et venir jusqu'à la zone moins humide. Donc tout d'abord j'ai attaqué par la zone où c'était pas du tout humide. Donc j'ai fait des lignes de 20 mètres. Jusqu'à que je voyais que la machine commençait à s'enfoncer, j'ai arrêté. Et après, j'ai essayé de faire un pont jusqu'à l'autre parcelle et mettre une buse dans la rigole. Là ça va être plus long que prévu, il va falloir faire un pont de 50 mètres là.
Là, oui, vu l'importance des terrains, c'est certain que...
Et donc, quelle est la technique justement pour réaliser ce type de pont? Puisque là, c'est pas pour franchir un cours d'eau, mais c'est pour franchir une zone humide. Donc, on a quand même un minimum de portance peut-être.
Comme je suis en train de faire, là, on met du bois en dessous les pneus.
D'accord.
On le fout en long. Après, une fois, on remet du bois dans... Alors, en largeur, on en met en longueur. Et après, on remet des branches dessus.
D'accord.
Et jusqu'à que la machine s'enfonce pas.
Eh bien, on peut peut-être aller voir ça. T'en as déjà fait un petit peu une
petite partie. Là, une bonne partie.
On va aller voir ça.
Est-ce qu'on voit les... Voilà, tu verras pas le bois qui est en dessous. Tu vois juste les branches.
Et donc là, sous les branches, effectivement, qui sont sous la machine, il y a des rondins. Donc c'est les rondins qu'on voit sous nos pieds.
Faut en aider comme ça, là. On met du 2,30 ou du 5 mètres. En fonction des arbres qu'on a, parce qu'on va pas mettre des arbres de qualité sous les pneus. Sinon, le scieur pourrait gueuler.
Et ça prend combien de temps d'installer tout ça pour finir ?
Ça fait quoi ? Une matinée qu'on y est ?
6h ce matin.
Ouais. Et je pense qu'on aura fini le pont lundi.
C'est combien de mètres cubes le chantier là ici ?
À l'origine 600. Et il y en aura 500.
Ouais, il y a 100 mètres cubes qui vont servir pour...
Ce qui est passé sous les roues.
Ok.
Donc voilà, au niveau de déclaration, est-ce qu'il y a une déclaration à faire ou juste une déclaration d'intention?
Oui, donc par rapport à tout ce qui est franchissement temporaire, donc il y a un formulaire qui est en ligne sur le site internet de la DDT. Donc c'est un formulaire simplifié, il y a peu d'infos à mettre dessus, mais ça permet juste par rapport aux demandeurs de dire voilà, je fais un franchissement de cours d'eau et je vais mettre en place telle ou telle méthode. Donc comme on a parlé, ponceau, buse temporaire, etc. Donc c'est envoyé à la DDT et nous on fait une réponse rapide pour acter le fait qu'on a bien réceptionné la demande et que bon, c'est bon, il n'y a pas de problème.
Il est vrai que ça prend du temps, hein, ça je nie pas.
comme je vous dis, le temps que vous passez à faire ça, vous ne passez pas à sortir du bois, ça j'entends bien. Mais des fois, le temps qu'on règle les problèmes derrière, on ne passe pas non plus à sortir du bois. Donc c'est, voilà, c'est un poids, c'est une balance à faire entre les deux.
Et puis c'est aussi sur du plus long terme, dans le sens où effectivement, lorsqu'on fait pas de déclaration et qu'on peut se mettre les mairies à dos, parce que ça c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout. Donc le but c'est pas forcément d'intervenir rapidement pour pas se faire voir, parce que de toute façon on se fait une exploitation forestière, c'est toujours visible du grand public et de la commune. Donc le but c'est juste de les prévenir, leur dire voilà j'interviens, et puis même vis-à-vis des voisins. Donc au sein de l'association, on a mis en place des petites brochures qui sont à disposition des ETF pour justement expliquer rapidement ce qu'ils font, qui ils sont et pour quelles raisons ils interviennent. Donc cette brochure peut être mise effectivement donc, avec le tampon de l'entreprise dans les boîtes aux lettres des voisins au moment du début du chantier pour faciliter la communication et éviter que les gens de passage ou les voisins, au lieu d'avoir leur propre idée de l'exploitation forestière, se disent, ben voilà, ils ont l'élément en main, ils savent concrètement ce que c'est, et ensuite ils peuvent éventuellement réagir en connaissance de cause, et non pas avec leurs idées qui sont au préalable.
Ça fait écho avec ce qui se passe en ce moment, où on voit beaucoup d'articles qui apparaissent sur les coups presse qui ont lieu sur le plateau, et souvent, ben, c'est vous qui êtes les premiers cibles, parce que c'est vous qui avez les engins sur la place de dépôt, donc s'il y a du vandalisme, c'est vos engins qui vont trinquer en premier lieu. Mais par contre, des fois, l'idée, c'est de faire plus accepter une activité qui actuellement a quand même une image qui est quand même atteinte tant sur ce qui pouvait être fait, mais aussi par les médias, et ça permet de redorer surtout une profession qui gagne à être connue et qui fait du travail, qui fait vivre un territoire, qui fait quand même vivre beaucoup de personnes et qui permet de faire sortir du bois. Quand on veut s'asseoir sur une chaise, on est content de trouver son bois, et quand il vient de France, encore mieux, et quand il vient du Limousin, c'est encore mieux.
Est-ce que vous, ETF, vous avez déjà eu un peu des expériences soit vis-à-vis d'une commune ou vis-à-vis de voisins qui ont pu vous empêcher de travailler correctement, qui ont pu montrer un peu leur mépris envers la profession?
Oui, on prend bien des réflexions. C'est pas bien grave.
Tant que ça reste que des petites réflexions, c'est pas bien. Malheureusement, il y a quand même des choses qui se font. Et puis voilà, sur le secteur, fin d'année dernière, on en a vu le résultat. Donc là, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est plein de choses qui font que si on pouvait éviter d'avoir ce type de phénomène qui arrive, essayer de... sans forcément aller dire que ce qui est dit, par exemple, si on va dire que le film qui est passé au cinéma est pas bien, ça apportera rien à personne. Le but, c'est juste de montrer ce qu'on fait, de faire comprendre aux gens ce qu'on fait, sans forcément attendre qu'on se fasse taper dessus pour répondre. C'est juste, voilà, promouvoir la filière, faire de son mieux sur le terrain. Certes, on coupe des arbres parce qu'on a besoin du bois, mais derrière, le terrain est respecté, la petite zone humide avec les animaux qui peuvent y vivre est respectée. Derrière, la nature va reprendre ses droits. Sur les zones qui sont les plus aptes à reproduire du bois, eh bien, on va nettoyer le terrain, on va replanter, entretenir la plantation. Le but, c'est vraiment de préserver la forêt, de la faire durer. Et la faire durer, c'est pas la laisser sur pied tout le temps. Parce qu'un arbre, c'est comme tout le monde, ça grandit, ça pousse, ça vieillit, ça meurt et ça se renouvelle. Et nous, finalement, on est là pour accompagner la production de bois, accompagner les arbres pour qu'ils puissent pousser dans de meilleures conditions, être en bonne santé. On les récolte quand ils sont prêts à être récoltés pour produire du bois. Et derrière, on remet en sylviculture et en production.
À l'époque, le débardeur il touchait déjà 30 francs, hein, si on parle en francs. Donc ça n'a pas évolué. Le pétrole coûte plus cher, tout coûte plus cher, les machines coûtent plus cher.
La réglementation a évolué.
Voilà aussi, il y a de plus en plus c'est plus en plus compliqué de travailler dans le bois. Quoi.
Mais, on voit nettement l'évolution au niveau de la mentalité, au niveau des entrepreneurs, travaux forestiers, qui eux s'adaptent au terrain, ils s'adaptent à la nouvelle technologie, pour aussi faciliter le travail du bûcheron, parce qu'effectivement le bûcheron toute une journée c'est quand même un métier qui est très difficile, très long. La machine, ça permet de faciliter ce travail, c'est un confort de travail, mais derrière, c'est des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Et comme on dit, le travail qui est le prix à la fin au mètre cube qui n'est pas valorisé avec cette évolution.
Elle est belle, la maison. C'est le prix d'une belle maison, c'est vrai.
Ah oui, 500
000,
oui.
On a une belle
maison.
C'est
ma maison. Plus qu'à dormir dedans. Ah oui, il n'y a plus qu'à dormir dedans, c'est sûr. Il a de grandes pattes, il va être
pas
les trois. Non, mais bon, ça va évoluer, ça va venir.
Oui. Ça va venir. J'espère un peu plus vite.
Ouais, de toute façon, il faut qu'on se pose des questions parce que la forêt devient malade et ça manque d'eau quand même. Quoi. Donc, c'est sûr que
c'est du dialogue.
Il faut en discuter.
D'où notre présence aujourd'hui.
C'est bien.
On vous embêtera pas tous les jours, mais
non, peut-être mais, comme vous voulez.
C'est pareil, mais je pense plus que la forêt, c'est-à-dire que, on le voit, il y a le climat qui évolue, il y a les essences qui évoluent, il y a vraiment une évolution qui est tellement régulière et tellement importante sur la végétation, l'environnement, qu'on a obligation de se remettre en question et de revoir tout ça et de se remettre à niveau. Non pas parce qu'on perd en connaissance ou parce qu'on ne se renseigne pas, mais tout simplement parce que ça évolue.
Oui, et qu'on ne veut pas forcément changer ce qu'on a toujours fait.
C'est ça.
Parce qu'on est dans un confort de ce qu'on a toujours fait.
Et on a peur de l'inconnu.
Ouais. Et moi, je le retrouve dans le monde agricole aussi. Dans le service où je suis, on revoit la même chose dans le monde agricole.
Et encore, alors après, effectivement, moi, je suis plus côté entrepreneur également agricole, avec entrepreneurs du territoire, je travaille avec eux. Ouais. Et beaucoup d'entrepreneurs commencent, alors c'est pareil, on change de génération, mais commencent vraiment à se remettre en question. Vraiment, on sent que ça rentre avec les régulations de doses. Le glyphosate, bon, apparemment, qui a quand même été renouvelé pour 5 ans en France, mais les entrepreneurs ont en tête de le réduire au maximum et essayer de trouver des nouvelles solutions à tout ça. Donc il y a vraiment un changement, mais c'est, comme on dit, une poignée de personnes qui doivent vraiment se remettre en question, qui ont vraiment la main mise sur beaucoup de choses et qui devraient essayer aussi de trouver ça, s'adapter.